Bonjour à tous, nous sommes ici à S'écouter sa compte et nous allons recevoir Michel Galarin qui est un conteur du sud de la France et il va nous présenter aujourd'hui qui il est et ce qu'il fait comme conte. Bonjour Michel.
Bonjour.
Dites-nous, votre passion du conte, comment elle est venue dans votre vie ?
Alors la passion du conte est venue dans ma vie, c'était en 2003. Contrairement à beaucoup de conteurs, je n'ai pas souvenir de ma grand-mère qui me racontait des histoires au coin du feu, mais que je suis aussi tombé dans la marmite. J'ai progressé et j'ai rencontré un jour un maître conteur, il s'agit d'Henri Gougou. Donc j'ai travaillé beaucoup avec lui, il est devenu mon maître et en même temps un ami aussi. Et c'est lui qui m'a permis de trouver mon identité de conteur de terroir, conteur fils de paysan, donc d'histoire d'homme de la terre, bien souvent, qui verse dans le fantastique.
Qu'est-ce qui vous inspire dans votre vie de Kervie pour faire vos contes?
La partie des hommes de la terre, donc très proche des racines, et en même temps, dans ces histoires-là, mais toujours du fantastique, c'est-à-dire il y a toujours un départ dans... Je pars aussi toujours de contes traditionnels qui existent et que je replace justement par rapport à cette terre, une colle aux chaussures quelque part, hein. Puis je suis monté à l'arbre un petit peu, comme on dit.
Et justement, dans vos contes, quelles sont les valeurs et symboles que vous voulez véhiculer ?
Il y a plusieurs choses. Et justement, par rapport à l'histoire que je vais vous raconter, il y a une question qui me tarabuste, comme on dit chez nous, depuis longtemps, c'est pourquoi l'homme est-il avide? Et je retrouve très souvent dans mes histoires cette avidité. Après, il y a d'autres valeurs, si on cherche dans mon répertoire, je n'ai pas un très très grand répertoire, j'ai une relation très forte avec les histoires. Donc celles que je mets dans ma besace, j'ai besoin de les ressortir assez souvent, de les raconter hein, pour les faire vivre. Et donc, je ne suis pas un conteur qui a 300 ou 400 histoires dans son répertoire. Mais j'ai besoin d'avoir une relation forte avec ces histoires.
Eh bien, je pense qu'il est temps pour nous de passer à votre petite histoire que vous allez nous conter. Je vous laisse la parole, Michel. Et...
Ça se passe du côté de chez moi. Vous connaissez ces cigales qui sont signes de chaleur. Ça se passe sur le plateau aride. Sur le plateau aride de l'île du Quercy. Il fait chaud, on est en plein été, les cigales chantent. Et depuis l'aube, ce matin, trois hommes marchent. Trois compagnons de route. Devant, c'est un homme d'une vingtaine d'années. Et puis juste derrière lui vient un homme poivre et sel, habillé d'un costume de moleskine bleu délavé, déchiré, cent fois reprisé. Et lui, il a une casquette sur sa tête. La casquette ne le quitte jamais. Et derrière lui vient le troisième homme. C'est celui qu'on pourrait appeler le sage. Enfin, je ne sais pas si la sagesse l'a touché. Il est plus vieux. Lui aussi a un costume de paysan. Un béret vissé sur la tête. Un mégot à la commissure des lèvres. Il est un petit peu courbé. Il est appuyé sur son bâton à cause des années. Tous les trois marchent sur le chemin caillouteux. Ils ont faim. Ils ont soif. Mais ils n'ont rien à manger ni à boire. Quand soudain, au détour d'un virage du sentier, là, sur le côté, un chêne, un vieux chêne, leur offre son ombre généreuse, accueillante. Alors ils décident de faire une pause. Les deux plus vieux s'allongent dans l'herbe et commencent à concurrencer les cigales avec leur ronflement. Le plus jeune, lui, il ne fait pas de sieste. Il s'assied au pied de l'arbre, le dos contre le tronc, et machinalement, avec son bâton, gratte la terre, comme pour tuer le temps ou passer la nuit. Lorsqu'il sent quelque chose de dur au bout du bâton, et sous la terre apparaît un genre de couvercle métallique. Il continue à gratter, c'est un couvercle de marmite. Alors, il appelle ses compagnons. Et d'un seul coup, on voit six mains qui s'affairent. à dégager cette marmite. C'est bien une marmite. Elle est toute rouillée sous terre. Ils veulent la sortir. Elle est lourde. Elle est si lourde qu'elle présage quelque chose de bon. Ils sont excités, impatients. Seulement le couvercle est scellé avec du plomb. Le plus vieux sort son laguiole de la poche, toujours pointue comme une épingle, affûtée comme un rasoir, et le voilà qui commence à travailler le plomb. On sent l'impatience qui monte, le suspense, et puis d'un seul coup, le couvercle cède. Le plus jeune, lui, il se met à se rouler dans l'herbe et à rire aux éclats. Le cadet, lui, il se met à embrasser les arbres. Il rit aussi aux éclats. Le plus vieux, lui, il se met à parler aux oiseaux. C'est incroyable. C'est complètement inattendu. C'est le nirvana, l'extase. C'est une joie sans nom. Le plus vieux s'approche et dit, il y a là une fortune. Le plus jeune, lui, il saisit dedans une pièce qui paraît être en or, mais peut-être est-elle en chocolat, il la met entre ses dents, non, elle est dure. Le second, il saisit la pièce, il la fait teinter contre le rocher, c'est bien du métal. Et c'est le plus vieux qui, avec son couteau, gratte la pièce et qui dit, mes amis, c'est bien de l'or. Il y a là une fortune. Mais ne perdons pas la tête. Écoutez-moi bien. Toi, le plus jeune, tu vas prendre une pièce et tu vas descendre au village ces jours de marché là-bas. Tu achèteras de quoi manger, de quoi boire, du bon, hein, et assez en quantité. Et quand tu reviendras, nous ferons bombance tout autour de la marmite. Et quand nous aurons fêté cela, nous partagerons la fortune en trois parts égales, et nous nous séparerons pour plus de sécurité. Et le vieil homme prend une pièce et la tend au jeune homme. Il la met dans sa main gauche, la main du cœur, et glisse la main dans la poche sans lâcher la pièce. De son autre main, il prend le bateau, il les salue et il met le chemin sous ses pas. Le chemin est caillouteux, il fait chaud, les cigales chantent toujours. Et vous vous doutez bien, hein, tout au long du chemin, voici, tu rêves. Tu imagines, depuis le temps qu'il a envie d'acheter une ferme, avoir des moutons, avoir femme et enfants, aura-t-il assez avec tout ça? Peut-être, mais peut-être pas. Alors il se met à penser que, après tout, c'est quand même lui qui a trouvé la marmite. Il aurait pu ne rien dire, partir avec, laisser les deux autres qui dormaient là comme des sangliers sous l'arbre. Et cette idée commence à germer dans sa tête. Il arrive au dernier virage du sentier, juste au bord de la falaise. La falaise qui domine la vallée. Il voit le village en bas, c'est vrai, c'est jour de marché. Et il descend rapidement le sentier qui serpente à flanc de colline. Il arrive sur la place et immédiatement sur la place, il y a un fumée, une odeur, un parfum qui guide ses pas. Il suit ses narines et ses narines les mènent au milieu de la place. Il y a là un homme qui prépare un cassoulet. Alors je ne sais pas si vous connaissez le bon cassoulet, mais le bon cassoulet se fait avec des haricots tarbés, avec des cuisses de canard du Quercy et de la saucisse de Toulouse. Il goûte le cassoulet, délicieux. Écoutez, il dit au marchand, j'en prendrai bien trois parts, mais je n'ai rien pour les mettre. Oh, que cela ne tienne, tiens, voilà un toupinot en terre, vous le prendrez, vous me le ramènerez. Il lui met trois bonnes parts de cassoulet. Coup de chance, l'homme-là vendait aussi du bon pain. Le jeune homme achète une tourte et aussi, il vendait du bon vin, du Cahors, paillasse, 15 ans d'âge. Il lui fait goûter le vin, délicieux. Trois bouteilles, s'il vous plaît. Il met tout ça dans un panier, et à ce moment-là, le jeune homme sur la main de sa poche. Quand il l'ouvre, le marchand voit cette pièce d'or. Et là, il lui dit, si vous voulez, je vous prête le tire-bouchon, les fourchettes, le panier, le toupinou, tout ce que vous voudrez. Il lui rend la monnaie. Et le jeune homme s'en va, avec son cassoulet, ses bouteilles de vin. On entend clinquer dans le panier. Et il repart vers le plateau là-haut. Mais en sortant du village, il passe devant une pharmacie. Et là, l'idée revient dans sa tête. Il hésite un moment, puis il pose la main sur la poignée de la porte, tourne, et la sonnette se déclenche. À l'intérieur, un petit homme arrive dans une blouse blanche derrière le comptoir, lui dit « Bonjour monsieur, que désirez-vous ?» Et le jeune homme regarde autour de lui, s'il y a d'autres clients, il n'y a personne, ça tombe bien. C'est-à-dire, monsieur le pharmacien, c'est un peu délicat. Mais dites, j'ai chez moi deux gros chiens, ils ont la rage. Et j'aimerais qu'ils trépassent sans souffrir. Alors auriez-vous quelque chose d'assez fort pour leur éviter les souffrances ? L'homme sourit, passe dans une arrière-boutique, dans l'arrière-boutique, et il revient avec un petit flacon. Sur le flacon est dessinée une tête de mort, et au-dessous écrit « Arsenic ». Méfiez-vous, monsieur, c'est un poison violent. Vous en mettez une dizaine de gouttes dans chaque gamelle de vos chiens, et ils ne souffriront plus. Le jeune homme paye le petit flacon, et dit merci au pharmacien. Il tire la porte et remet le chemin sous ses pas. Et le voilà qui remonte sur le plateau. Il fait chaud, il transpire. Il a faim, il a soif. Il arrive en haut, au-dessus de la falaise, et il s'arrête à l'ombre d'un petit arbuste. Il a tellement soif que il ouvre une bouteille. Il goûte le vin, et le vin lui réveille l'appétit dans les intestins. Et il se dit que, après tout, s'il arrive un quart d'heure plus tard, ce n'est pas un gros problème. Alors il soulève le couvercle du toupinou et mange sa part de cassoulet. Délicieux cassoulet. Et quand il a mangé sa part, au fond du panier, il voit le petit flacon. Alors il prend le petit flacon, et dans le cassoulet, il verse 20 gouttes. Puis il se dit que c'est peut-être pas suffisant. Ils sont plus gros que des chiens. Alors, il met 10 gouttes de plus, 20 gouttes de plus. Enfin, finalement, il met tout le flacon. Il prend son flacon et il le jette de toutes ses forces, aussi loin qu'il peut, dans les broussailles. Il mélange, il renifle le cassoulet. Ça sent le cassoulet. Pas d'autre odeur. Il recouvre le toupinou et voilà qu'il reprend le chemin. Mais là-haut, sur le plateau, sous l'arbre, nos deux compères, ils ont d'abord remis la marmite dans le trou, une couche de terre juste au-dessus. On ne sait jamais, un quatrième larron pourrait arriver. Et puis, sous l'arbre, assis, ils ont commencé à palabrer. Oh, ils en ont fait des plans sur la comète. Moi, avec cet argent, j'ai pris au bout de 1000 projets comme ça. Le silence est arrivé. Ils se sont tus un instant. Et au bout de ce silence, le plus jeune des deux a eu un sourire. Il a regardé le vieux et il lui a dit « Dis-moi, toi qui es allé à l'école jusqu'au certificat d'études, un tiers, c'est bien plus petit qu'un demi, non ?» Et le vieux s'est mis à rigoler et lui dit « Je pensais la même chose que toi. » Et à ce moment-là, ils ont tapé dans leurs mains pour sceller le marché. « Allez, on partagera... » En frère, hein? Ah non, dit l'autre. Je préfère qu'on fasse moitié-moitié. D'accord, a dit le vieux. Et à peine avait-il dit cela, qu'ils entendent des bouteilles qui clinquent, qui claquent. Ils entendent des cailloux qui roulent. C'est le jeune qui arrive. Ayant laissé juste le temps de poser sa besace, son panier, et lui ont sauté dessus. L'un des deux avait une cordelette, ils l'ont étouffé, étranglé. Ils l'ont tiré près d'un tas de cailloux, ils ont mis les cailloux dessus, puis ni vu ni connu. C'est l'odeur qui les a ramenés à leur monde. Ils avaient soif. Et c'est vrai que ça creuse, hein. Alors ils ont ouvert chacun une bouteille. Et puis le vin a réveillé leur appétit. Alors ils ont soulevé le couvercle du topino. Ils ont pris une fourchette chacun. Et ils ont assouvi leur faim. Mais l'histoire ne dit pas comment s'écrit le mot faim. Cric, crac, et mon comte Jacobat. L'histoire, elle est finie. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous, Michel. C'était quand même une histoire assez intéressante et passionnante. Eh bien, merci et nous aurons, j'espère, le plaisir de vous retrouver ici à la Cité des Contes bientôt et dans de meilleures conditions que celles que nous connaissons à l'heure actuelle.
J'espère beaucoup. Merci beaucoup en tout cas.
Mais de rien, avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.